Poursuivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan & Co, c'est tous les jours, a priori à partir de 19h. A priori.
Est-ce que Cheikh Abdelali Mamoun sait qu'on a commencé depuis
une
minute?
Si le Cheikh veut bien se donner la peine.
Voilà. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Installez-vous, mon Cheikh.
Pas de souci, frère. Salam alaykoum Nadia, salam alaykoum Maître Siran, Philippe, salam. Et puis, bien sûr, mon frère Kim.
Bon. Comment je l'ai quitté ce matin? Comment je le retrouve cet après-midi? Alors là, moi, je vous dis.
Bah, je t'ai dit, quand je vais faire le Jumu'ah à la mosquée de Paris.
Oh là là.
Hein, maintenant, il faut que. Voilà. D'accord. Ah. C'est
respect.
Plus pareil.
Non, c'est de notoriété.
Imagine le mimbar, tu mets presque une minute pour arriver jusqu'en haut.
Tu sais, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday au Stade de France. Eh ben, il y a ça, et il y a Mamoun à la mosquée de Paris.
J'ai visité la mosquée de Paris.
Oui. En tout cas, on sent que c'est un bonheur.
Tu as vu le mimbar comment il est?
Oui, il est.
Pour arriver jusqu'en haut, il faut escalader.
Il faut dire qu'on ne nous laisse pas trop accéder au mimbar pour pouvoir. Non, mais juste.
Vous ne commencez pas tous les deux.
Non, non,
vous ne commencez pas tous les deux.
Moi, je l'ai vu tout le temps, mais c'est la première fois que je le gravis.
Ouais, c'est vrai, il est haut. Ouais.
Est-ce que c'était comme l'Everest?
Un petit peu moins, quand même.
D'accord.
Un peu moins. Faut pas abuser, quand même.
Mais on sent qu'il est heureux aujourd'hui, machin.
Ça s'est bien passé, j'étais super content.
Non, est-ce que les gens étaient contents?
Ah, très.
Non,
ils sont tous venus me voir à la fin.
Non, c'est pas vrai.
Il a fait un final, vous parliez de Johnny Hallyday, il a fait un final, il a sauté.
La première fois, une khutbah comme ça. Tout le monde est venu. Ah, c'est la première fois.
Jamais ils ont une idée aussi bien, d'ailleurs.
Écoute, moi je te dis rien.
Non, à nous.
Tu verras.
À nous, vous pouvez nous
entre
dire.
Entre nous, personne n'écoute.
On est à l'antenne quand même là. Je vous signale.
C'est pas grave, on est entre nous.
En tout cas, ça s'est bien passé.
Non,
voilà.
Mais est-ce qu'ils en ont eu déjà aussi bien?
Les gens sont venus me dire. Bon. En tout cas, je te dis ce qu'ils me disaient. Ils me disent c'est la première fois qu'on ne rentre pas comme ça.
Tu vois?
Eh ben, machallah.
Voilà,
c'était super.
En tout cas,
c'est un message au recteur, c'est ça, de la mosquée?
Non, il m'a convoqué carrément dans son bureau. Il m'a dit il faut que tu viennes me voir. Après, parce qu'il a pris derrière moi. Donc ils étaient tous là au virage pour si je moindre que mais tout était carré et surtout pertinent, c'est-à-dire je ne suis pas venu copier ce que disent les autres.
Non.
Pour la première fois j'ai dit
mais
quelque chose
que
qui pourrais, n'était pas le copiage.
Est-ce que je pourrais avoir une photo de vous avant la fin de l'émission?
Dédicacée
à mon frère. Parce que si Abdelali vous pouviez,
ouais,
même je vais même la prendre avec vous. C'est Abdelali de la mosquée. Voilà. Bon, il y a Maître Serran en attendant.
Allez, Maître Serran, laisse-le quand même faire son.
Oh ben.
Non, mais c'est l'autre, là. C'est pas moi, c'est lui qui cherche les histoires.
Oh, le boulard qu'il a. Oh, c'est ouf. Bon, allez, yallah, on y va. Là, allez.
À partir d'aujourd'hui, tu vas.
Ah, ben oui, mais manifestement, ouais. Bon, bah. On va l'appeler, si je peux me permettre, dans le football, il y a un gars qui lui ressemble beaucoup. Jérôme Roten.
Bon, bah voilà.
Voilà pour les footeux qui connaissent.
Et pourquoi,
Monsieur Boulard. Ah ouais. Monsieur Boulard. Tu
sais qu'il va falloir lui embrasser la babouche. C'est pas fini,
j'ai
les
ramené,
enfants.
J'ai ramené des chaussures.
La sandale.
Allez, j'arrête.
Regarde. La sandale du blédard.
Non, il faut filmer.
Ah, j'ai acheté mon frère pas cher.
Abdelali.
Il nous a sorti la sombatte quand même.
Chrinelf.
Allez. Abdelali vient de nous montrer sa chaussure. En solde, hein. Combien, Abdelali?
Voilà, qu'est-ce que c'est comme 1 euro.
Les deux
200 dinars, c'est 1 euro.
Les deux?
Ah bah oui, forcément. Ça fait 50 centimes. Là.
Il vous en fait un tarif de groupe.
Voilà, t'as tout compris.
Oh mon Dieu. Faites ces râles.
Au secours.
Ouais. Tu vois, je suis quand même humble, quand même, un peu.
Allez, Ramadan, jour 18. Salam alaikum, les sisters and brothers. Je suis ravi de vous retrouver. Certains d'entre vous ont eu le plaisir, je l'espère, de m'écouter déjà ce matin. Mais comme je suis un type sympathique, avec une voix radiophonique, je sais que c'est toujours un régal pour vous d'écouter, Maître Serran. Encore une fois, mon cher Philippe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, Maître Serran, appliquant ce principe à la lettre, n'hésite pas à faire l'éloge de qui vous savez. Eh ben, de Maître Serran, évidemment. Et je ferai d'ailleurs probablement l'Adhan aussi ce soir, tant qu'à faire.
Non.
Eh oui, tant qu'à faire. D'ailleurs, question. Les auditeurs qui écoutent Maître Serran le vendredi matin, sont-ils les mêmes qui écoutent la chronique de Maître Serran le vendredi à 19h? That is the question. Mais, laissons ces questions auto-centrées pour évoquer l'appel de notre camarade Kamel, qui hier a indiqué qu'il priait, mais qu'il ne ressentait rien de particulier. Alors, je dois reconnaître que dans un premier temps, j'ai pas tellement compris le sens de son appel. Et après qu'il ait échangé avec notre sage, Mister Abdelali Mamoun, qui, je le rappelle, est à mon grand désespoir, est plus jeune que moi d'un mois. Quel est l'intérêt de dire cela, mon cher Philippe, dans le cadre de cette chronique? Absolument rien, mais je tenais à le préciser. Donc, après un échange entre cet auditeur et notre ami l'imam, j'ai compris que Kamel se contentait de réciter sa prière, sans vouloir le froisser comme un perroquet, sans qu'il ne comprenne même le sens des mots. Alors que si tu récites sans comprendre, évidemment, tu ne peux pas te sentir imprégné par ta prière. C'est comme les langues étrangères. Lorsque j'ai décidé d'apprendre l'allemand dès la classe de seconde, je me contentais d'apprendre bêtement, pour ne pas dire inutilement, des phrases que je récitais sans forcément en comprendre le sens. Résultat, après 3 ans d'allemand, j'ai juste retenu « Wollen Sie schlafen mit mir » que je ne traduirai pas en raison du ramadan, à moins que toi, auditeur musulman, tu écoutes également Beur FM et que tu aurais d'éventuelles objections à formuler, ce à quoi je te dis « Schreise » que je ne traduis pas non plus. Mais avant de vous laisser, je souhaiterais, mon cher Philippe, avoir les coordonnées de cet imam qui est intervenu hier, dont le nom m'échappe et il me pardonnera. Je ne savais pas que vous connaissiez des imams traders, un type qui réussit une levée de fonds de plus de 500 000 euros en une soirée. Ouais. Chapeau bas. J'ai connu des types qui ont bossé à la bourse et qui n'ont pas le quart du palmarès de cet imam.
Voilà, c'est le champion de France.
Ah oui, il nous a même précisé que pour une autre mosquée, il a réussi à lever 400 000 euros en une soirée. Alors, sachant qu'il est l'imam et qu'il lui revient contractuellement 20% des fonds sur 500 000 euros, en une soirée, le type a touché 100 000 euros, frère.
On a tous fait le même calcul.
Ben voilà, alors,
il n'a même pas déclaré au fisc. Ben,
j'imagine, évidemment. Je veux donc faire appel à cet imam pour qu'il puisse organiser une levée de fonds pour la fondation Maître Serran, domiciliée à Palaos. C'est un tout petit état d'Océanie. D'accord. Que les mauvaises langues, mon cher Philippe, qualifient de paradis fiscal. Les gens sont mauvais. On est en plein ramadan. Est-il possible d'arnaquer les fidèles en plein ramadan? Je ne veux pas le croire. Allez, sur ce, je vous dis sahaf tolkoum. Je vous souhaite un bon week-end. Oui. Car je ne reviendrai que lundi. Inch'Allah.
Vous restez même pas avec nous ce soir, maître Serran.
Ce soir, non, c'est impossible. Mais la prochaine fois, Inch'Allah,
ministre de l'Intérieur, il n'a pas donné. Ouais.
Alors qu'il y a Nadia en plus.
Nadia,
je m'y attendais pas. C'est une surprise agréable. Ouais. À cause d'elle, j'étais obligé de refaire toute ma chronique puisque j'évoquais les femmes et quand je l'ai vu, j'ai dû tout refaire.
Ah oui, non, ça m'est certain, vous avez bien fait.
Ah, on est d'accord.
Ah oui, là on était parti jusqu'à minuit. On avait un débat. Bon, 01 53 48 3000, je rappelle que l'imam peut répondre à vos questions, à vous aussi, au standard de Beur FM, 01 53 48 3000, Abdelali.
Oui, Philippe, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise aujourd'hui? Plein de bonnes choses. Est-ce que tu sais qu'est-ce que disent les savants concernant...
Attends, c'est quand même une introduction exceptionnelle. Ouais, 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 ça, c'est ce qu'on appelle un enchaînement. C'est parce que... T'es déjà, j'ai lancé son regard.
Voilà, on y vient.
Dites-moi, mon imam.
Est-ce que tu sais que là, bientôt, nous allons accueillir les 10 dernières nuits du ramadan et que Aïcha, radiallahu ta'ala, a donc demandé au prophète, Ya Rasulallah, est-ce que si tu savais, si moi je pouvais savoir quelle était cette nuit, quelle formule tu me recommanderais de dire, de répéter.
Pour savoir quelle est la nuit du destin.
Non, pas pour la connaître, mais d'ici je la connais. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que tu me conseilles de dire à ce moment-là?
On parle de la nuit du destin.
La nuit de du mérite, de la destinée.
Qu'est-ce que je dois dire?
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux, c'est ça?
Non, mais je...
Voilà, la vocation.
Là, je regarde.
Une idée, non? Mais allez, c'est pas une devinette, Philippe, c'est pas grave.
Vous savez, Nadia?
Non. Donc le prophète a enseigné à Aïcha à dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu vois que tu le connais. Oh mon Dieu, tu es la grâce, tu aimes la grâce, comble-moi de ta grâce. Oh mon Dieu, tu es la grâce, tu aimes la grâce, comble-moi de ta grâce. Et donc la différence entre la grâce et le pardon, Philippe, parce que dire afu, l'afu c'est la grâce et le refrain c'est le pardon. Hein. On dit Allahumma ghfirli ou Allahumma afu anni. Une différence. Donc, une idée entre la différence entre le refrain ou l'afou. Le refrain, c'est tu fais une faute et Dieu te pardonne, il l'efface tout de suite. Rabbana ghfir lana dhunubana. D'accord? Bon, il y a une faute, il l'efface, donc tu n'es pas jugé, tu n'es pas condamné. Alors que l'afou, non. L'afou, tu t'as pas pardonné, tu as été jugé, condamné, et même tu fais l'objet de la sanction, la sentence. Et à ce moment-là, vient la grâce de Dieu pour que tu puisses être finalement gracié. Comme on dit, une grâce présidentielle, mmh. une grâce royale, une grâce d'un gouverneur qui vient gracier une personne qui est en prison ou qui va être exécutée juste à la dernière minute. Il y a la grâce du gouverneur. En États-Unis, par exemple, si on appelle le gouverneur, est-ce que vous acceptez de le gracier? Eh bien, c'est ça, la grâce. C'est avoir le sentiment d'être déjà condamné. Finalement, de rentrer dans ces 10 dernières nuits avec ce sentiment d'une crainte tellement grande que tu te sens déjà condamné, que tu n'as pas d'autre choix que de demander à Dieu, ça y est, il n'y a plus de pardon, maintenant il faut que tu me gracies. Je sois gracié parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir été pardonné et que cela, bien entendu, te met dans un état spirituel et psychologique où tu es plein de crainte, de peur d'être châtié, de faire l'objet d'un châtiment divin. Et donc, c'est dans cet état-là que doit intégrer le croyant ces 10 dernières nuits du Ramadan et de rechercher la nuit du destin dans ces nuits impaires. Attention, il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, qui dit clairement que ce n'est pas les 10 dernières nuits, c'est bien les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Donc, les nuits paires, c'est sûr que c'est pas. C'est pas la nuit du destin. C'est une des nuits impaires. Donc, le 21e jour, le 23e jour, le 25e jour, le 27e jour ou le 21e jour. Donc, tout ça va commencer dimanche soir.
Le 21e jour, c'est-à-dire, donc, en fait, c'est le 28e jour et c'est 29e nuit, c'est ça? Non?
Oui, c'est la veille.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que le lendemain, c'est le jour concerné. Par exemple, quand on dit le 21e jour, la nuit du 21e jour, c'est la veille.
Parce que le 29, voilà. Ça peut être l'Aïd, en fait.
Voilà, parce que le lendemain, tout à fait. Voilà, non, ça. Le lendemain du 29, tu veux dire. Le soir du 29, c'est la nuit du doute. Donc, déjà, on ne peut pas l'appeler la nuit du destin, parce que c'est la nuit du doute. Le 29 au soir, c'est la nuit du 30. Quand le 29 est terminé et que tu le maghreb, c'est la nuit du 30. Mmh. Donc cette nuit-là, soit on la jeûne, soit on la jeûne pas. Soit c'est l'Eid, soit on kemmelo Ramadan 30 yom. Mmh. Donc cette nuit-là, non.
Donc ma question, c'était, est-ce que la nuit du destin peut avoir lieu la veille de l'Eid?
Non, mais non. La veille d'avant.
C'est ça.
La veille d'avant. Non, parce que la veille de l'Eid, ce n'est plus Ramadan. Puisqu'au coucher du soleil, si on a vu le Hilal, par exemple, supposons cette année, c'est 29e jour, parce que tu voudrais que tu aies 29. On verra, mais bon.
Moi, j'ai demandé 29 cette année. Hein.
Je sais que tu voudrais 29. Moi, c'est un trontophobe. Il ne veut pas 30 jours de Ramadan, il ne veut que 29, ouais. Philippe.
Il faut donner un exemple concret. Si, par exemple, l'Eid, c'était demain, ce soir,
voilà.
Ce serait pas,
c'est plus en fait, Ramadan.
Voilà, ce ne serait
non
pas
seulement, ce n'est pas la nuit du
destin, ce serait la nuit
ça
précédente.
Ça ne peut pas être la nuit, parce que voilà. C'est même pas le Ramadan.
C'est ça, mais c'est ça qu'il faut expliquer, en fait.
La nuit d'avant, c'est effectivement la nuit du 29, qui est la veille du 29.
Voilà.
Tu as tout à fait compris. Mmh. Donc, la nuit du mérite, la nuit du destin, la nuit de la prédestinée, c'est soit le 27e jour, ça c'est ce qui est le moins, on va dire, c'est le plus précis mais le moins authentique. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le plus précis mais le moins authentique. Que ça soit le 27 ou le 29, c'est encore moins précis, mais plus authentique que dire que c'est que le 27. De dire que c'est le 25, le 27 ou le 29, c'est encore moins précis, mais c'est plus authentique. Et de dire carrément que c'est une des nuits impaires, c'est carrément 100% authentique. Donc c'est certain.
Mais pourquoi vous dites jour? Moi, je suis
nuit, je vais dire nuit. Excuse-moi.
Nuit.
Parce que j'ai dit jour, moi.
En fait, la confusion vient qu'on parle de nuit et pas de jour, en fait.
Et quelle est justement la journée la plus noble aux yeux d'Allah dans toute l'année? La journée la plus noble. Qui connaît la journée la plus noble dans toute l'année du calendrier musulman?
La journée ou la nuit, du coup?
Alors, justement, voilà.
Moi, je dirais que c'est Arafat.
Voilà, exactement. C'est la journée d'Arafat qui est la journée, et comme elle a dit Nadia, elle a bien répondu, Nadia aussi, que la nuit, c'est l'Eid Qadr, et le jour, c'est Arafat. Voilà, comme ça.
Tous les deux.
Voilà, vous avez raison tous les deux. Mashallah, vous êtes complémentaires.
J'irai réviser avec vous, Nadia.
C'est vrai pour réviser. Parce qu'il y a eu divergence. Est-ce que c'est la nuit du destin ou est-ce que c'est Arafat? Et pourquoi vous vous chamaillez? Puisque de toute façon, Arafat, c'est le jour. On parle de jour. Yom Arafat, c'est Wan Nahar Arafat. Au coucher du soleil, c'est plus Arafat, c'est l'Eid. C'est la nuit de l'Eid. Donc, on dit, quand on dit Yom Arafat, c'est Yom Arafat. Yassoumou al muslimoun fil alam, wa yaqifouna al hujjaj. Les hujjaj, eux, sont à la Mecque, sur le mont Arafat, en train de consacrer toute leur journée au dua, aux pleurs, au pentir, à la lecture du Coran, au dhikrullah. Vous verrez l'ambiance à Arafat ce jour-là, c'est. Mashallah, extraordinaire.
On sent que ça lui manque.
Ah ben ça me manque à mort.
Ça
alors s'entend. Là c'est sûr, je suis accro, là je commence à trembler tellement. C'est comme celui qui manque la drogue là. Mecca c'est la drogue, t'as rien. Rasne roh au moins 3-4 fois.
Et quand on voit les inondations.
Et là ça fait 2 ans.
Les inondations cette année.
Ouais, t'as vu ça?
Incroyable.
La Mecque fait l'objet de chutes de pluie d'une intensité, même des grêles, de la grêle, des grosses boules de grêle qui tombent sur la Mecque, c'est incroyable.
Puis le problème, c'est qu'ils surbétonnent maintenant, donc du coup, la terre n'absorbe pas.
Tout à fait. Mais bon, ils ont quand même un système d'irrigation qui fait que bon. Mais là, c'est exceptionnel. Là, la pluie, elle. Même en France, hein, malgré la technologie française, il y a certains endroits en France quand il pleut très fort, et ben. Ça provoque des inondations, c'est hein, des dégâts. Hein.
Allez, dans un instant, l'imam Abdelali Mamoun répondra à vos questions. Il vous suffit de composer le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, la denne ce soir, c'est à 21h07, si vous habitez Paris, en région parisienne. On aura peut-être des surprises pour la denne, hein, Imam Abdelali, ce soir. On verra.
Oui.
On verra.
C'est bien une surprise. Hein.
01 53 48 3000.
On peut dire qu'il y a une surprise. Quand même.
Oui, on peut dire qu'il y a
une. Mais on ne dit pas c'est quoi la surprise.
Non, c'est ça, le principe.
C'est ça la surprise, en fait.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est que vous n'allez pas dire, vous, aujourd'hui, ce que c'est la surprise.
Mais je ne le dirai pas.
Mais par exemple, si Nadia a une question.
Je ne dirai pas que. Attends.
Ah non, hein.
Je plaisante.
Si Nadia, tiens, Nadia a une question pour vous, Imam Abdelali.
Bismillah, vas-y Nadia.
Bonsoir,
c'est pas la même Nadia, je pensais que c'est Nadia Tatna.
Nadia, Mounia.
Oui, c'est Mounia.
Mounia, bienvenue Mounia.
Merci, je suis à l'antenne.
Oui, vous êtes à l'antenne et le monde entier vous écoute, ouais. Mounia.
Bah écoutez, déjà je voulais vous saluer à tous, vous souhaiter un bon ramadan.
Merci.
Je voulais vous dire que la chronique tout à l'heure de Maître Serran a été très très drôle et que c'était rafraîchissant d'entendre tout ça. Mmh. Et j'aurais une petite question s'il vous plaît. Je voulais vous demander à monsieur l'imam, après toutes vos années, quelle était la question qu'on vous avait posée qui a été la plus difficile à trancher?
Oh, j'adore cette question.
Ouais.
Wow. La plus difficile à auquel j'ai encore même jusqu'à aujourd'hui du mal à répondre. C'est
peut-être,
ça
oui, peut-être que vous n'avez toujours pas trouvé la solution. Ouais.
Bah, c'est la réponse à une question qui concerne les contrats en pyramide. Vous savez, où il y a.
Pyramidal.
Truc pyramidal, là. J'ai pas encore lu quelque chose qui répond à cette question. Les contrats financiers qui consistent à mandater une personne, que si lui-même il trouve deux autres ou trois autres, eh bien, il touche une commission et lui-même il touche la commission et finalement celui qui est tout en haut, il touche les commissions sur tous les intermédiaires qui ont été. Est-ce que celui-là, cet argent, il est halal ou pas?
En tout cas, généralement, ça se termine mal pour celui qui est en bas. Hein.
La justice.
Non, mais
la justice tranche là-dessus.
Ouais, hein. Ouais,
oui. Pourquoi, ça, on n'a pas le
droit. Eh oui.
Ah ben non,
c'est une arnaque. Hein,
ça s'appelle les pyramides de Ponzi.
Il y a eu des gros procès là-dessus.
Ah oui.
Mais est-ce que c'est
Madoff
c'est
par
ça,
exemple,
oui.
C'est une pyramide de Ponzi. Alors maintenant, d'un point de vue religieux, je ne sais pas comment vous pouvez arbitrer, Mme Delali, pour répondre.
Je te dis, jusqu'à maintenant.
Mais il y a quelqu'un qui vous a appelé pour vous demander.
Voilà,
ça.
Il m'a carrément présenté les choses. Il dit voilà, moi, je suis commercial, je suis dans une démarche de recruter des gens qui eux-mêmes vont recruter des gens, qui vont eux-mêmes après derrière recruter des gens, et moi, je toucherai la commission de tous les gens qui seront dans la pyramide. Et jusqu'à maintenant, je suis assez.
Quelqu'un qui va être lésé, non?
Mais non, puisque chacun touche sa com.
Ah
mais
non.
lui,
le principe,
mais celui qui est tout en haut de la pyramide, il touche une partie des coms de tout le monde.
Oui, le principe, c'est que celui qui est en bas.
Le gars, il devient milliardaire rapidement, le gars. Du pognon sans rien faire.
Malheureusement, celui qui est en bas de l'échelle, c'est le perdant de.
Systématiquement. Non, mais il touche quand même une commission. Mais
non, à la fin, il y a, en général, dans ce système, à la fin, celui qui est en bas de l'échelle, eh bien, ne gagne rien. Voilà, il est perdant.
Bah, il a qu'à pas travailler quand il sait qu'il va rien gagner, c'est sûr, il va pas accepter. Non, il y a forcément quelque chose. Sinon, il va pas accepter. Parce que c'est toujours avec le consentement des personnes qui sont recrutées. On va pas leur dire, vous venez travailler gratuitement. C'est pas possible. Forcément, il y a une rétribution. Mais la question, c'est celui qui est en haut, là, qui touche comme ça, là, de l'argent sans qu'il ait rien fait. Est-ce que, voilà, ça me semble. Comment t'as dit, la pyramide de Ponzi.
Ponzi. Mais alors Ponzi. Peut-être. Oui, mais après, il faudrait demander à. Comment il s'appelle au Chir, comment il s'appelle spécialiste du FIRC. Il peut répondre.
Ah, il y en a beaucoup, des grands fouqras. Il y a Bajrafil, il y a Chir Zakaria Saddiqi, il y a. Ah, des ulama en France, on en a des fouqras, il y en a beaucoup. Il y a Darl Fifta, Omar Dourman, etc. Non, non.
Et la deuxième question, qui a été la plus difficile à.
Bah c'est surtout des questions liées aux règles, là. L'histoire de dérèglement là.
Aux menstrues, Imam Abdelali.
Voilà, les menstrues, et effectivement parfois quand ces femmes ont des problèmes de dérèglement, est-ce qu'elles mettent des trucs dans le bras, ce qu'on appelle des stérilés, c'est ça?
Ah non. Dans le bras, c'est un implant.
C'est un implant, voilà. L'implant,
c'est un implant. Voilà. Stérilé, c'est plus bas.
Qui empêche la fécondation, bien d'accord. Mais ces femmes-là ont des trucs, c'est tout et n'importe quoi. Pendant leur période, ils n'ont rien, ou ils ont un petit truc, voilà, et après, ça revient, c'est abondant, un peu plus, deux, trois jours après. Moi, je ne sais pas gérer ce genre de problème. Donc, c'est surtout des choses qui ont un rapport avec, pas les textes, mais le contexte, c'est-à-dire la réalité à laquelle on confronte la vie religieuse. Mais sinon, pour toutes les questions religieuses, il y a une réponse si on y réfléchit bien. Et moi, vous savez que j'ai depuis un moment décidé de démissionner de ce genre de questions. Pourquoi ? Pour dire tout simplement qu'il y a quand même une part de d'arbitrage humain. On n'est pas obligé de toujours avoir une réponse de Dieu. Il faut avoir une fatwa, un avis religieux. Il y a énormément de choses qui ne relèvent pas des positions, une position divine. Tout à l'heure, il y a une dame, elle me raconte sa vie sentimentale, son mari l'a trompée. Est-ce qu'elle doit divorcer ou pas ? Je dis, madame, c'est à vous de choisir. C'est à vous de voir, c'est un problème sentimental. Est-ce que vous demandez à la religion quel travail vous allez choisir ? Est-ce que vous demandez à la religion quel mari vous allez choisir ? Toutes ces questions qui relèvent des choix arbitraires humains, l'islam n'a pas à se mêler de ça. Faut pas forcément y dominer. Donc forcément, ce genre de questions-là, je reste haïr, comme on dit, en lui disant, Orti, il n'y a pas de réponse religieuse. Il y a une réponse qui est dans votre tête, dans votre cœur. Après, vous réfléchissez et vous prenez votre décision. C'est tout. Hein. Voilà. Faut pas mêler la religion à tout. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum. Afallahu anha. Il y a dit un certain nombre de questions que Dieu ne veut pas que l'on pose. Et il a même dit après cela, innama halaka man kana qablakum. Les gens qui étaient avant vous, ils ont été anéantis, ils ont été en perdition. Limada li kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ils posaient trop de questions à leur prophète. L'histoire même de l'Baqara, je rappelle. C'est ça. Des hommes des Bani Israël qui posaient trop de questions, la couleur, où est-ce comment elle est, omenna, à la fin ils ont dû la payer au prix fort. Et au plus très très fort surtout même. Mille ou jildiha dhahaban.
Merci Mounia pour votre question pertinente. Alors on a Abdel avec nous au 01 53 48 3000. Abdel, bienvenue.
Allô ?
Oui Abdel.
Oui, salam alaikum Philippe et imam. Donc voilà, j'ai une question. Je voulais savoir c'est quoi la différence entre un prophète et un nabi ?
Un prophète et un nabi ? Un prophète, voilà. C'est un nabi. Un prophète, c'est en français, en arabe, on dit nabi. Mais la différence entre nabi et rasoul.
Et rasoul, voilà, excusez-moi. Voilà,
d'accord.
Voilà, rasoul et voilà.
Très bien, voilà. Le mot prophète en arabe se dit nabi. Et le mot rasoul se dit en français messager ou envoyé. Envoyé ou messager. Alors,
C'est pas la même chose ?
Comment ?
C'est pas la même chose.
Comment ça ? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Laisse-moi, je vais expliquer ça.
Allez-moi votre téléphone.
Voilà, parce que c'est notre.
Je vais faire votre secrétariat. Je dis pas que vous êtes à la piscine.
Je ne pouvais pas raccrocher parce que c'est notre invité qui doit venir. Alors, tout simplement, Ortil Kalima, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit la révélation. C'est quelqu'un qui reçoit la visite de l'archange Gabriel et qui lui dit, voilà, je suis envoyé de Dieu pour toi, pour que tu saches qu'Allah, tu dois l'adorer et tu dois faire le bien et reçoit de Dieu un message de Dieu. Pour lui. Donc, il est Nabi. D'accord. Mais quand il est Nabi, il n'a pas forcément l'ordre de le transmettre aux autres. Donc, il n'est pas Rasoul. Donc, il faut savoir que selon un hadith rapporté par Ibn Majah, Dieu a envoyé sa révélation à plus de 124 000 hommes. Et quelques femmes aussi. Pour être honnête. Mariam, dont Mariam, Moussa. Ouhayna ila Ummi Moussa. Nous avons révélé à Ummi Moussa. Le Coran reconnaît que Ummi Moussa a reçu une révélation. Donc, bref. Donc, 124 000 ont reçu la révélation. Et parmi ces 124 000 qui ont reçu la révélation, seuls 314 ont été des messagers. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'ordre de Dieu de transmettre leur message à leur peuple. Et le seul parmi tous ces prophètes dont le peuple est l'humanité tout entière, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul lui dit le même, il dit lui-même, quand il parle de lui, il dit tous les prophètes ont été envoyés pour un peuple précis. Kullu nabiyyin yub'athu ila qawmihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffatan. C'est la spécificité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète universel, alors que les autres étaient des prophètes spécifiques à leur peuple. Par exemple, Moïse a été envoyé pour le peuple d'Israël, mais aussi pour quelqu'un qui n'est pas de son peuple,
qui était le pharaon. Idhab ila pharaon innahu tagha. Non. Donc voilà la différence entre un prophète et un messager. Donc 314 messagers. Combien de messagers, Philippe, sont cités dans le Coran?
126.
Non.
C'est 25.
25, bravo, ouais. Bravo, 25. Monsieur professeur Warsitou qui connaît bien la réponse.
Il est plus fort que moi.
25, effectivement, c'est la bonne réponse. Et combien parmi ces 25 sont ceux qu'on appelle les doués de fermeté? Oulul azmi min ar-rusul. Qala ta'ala fasbir kama sabara oulul azmi min ar-rusul. Professeur Warsitou, est-ce que vous connaissez les 5 prophètes, les grands messagers de Dieu, qu'on appelle les meilleurs, les poids lourds? Oulul azmi, ceux qui étaient doués de fermeté.
C'est ça le...
Les cinq, allez, dites-moi des noms.
Aïssa.
Aïssa, bon, dans l'ordre chronologique, les plus anciens.
Moussa.
Bah, avant Moussa.
Oui, Ibrahim.
950 ans à Khouté. Oh, il a... Avant, il est resté 950 Youssef. Ans à prêcher à son peuple.
Ibrahim, Aïssa.
Avant, c'est une Ibrahim.
C'est Noé.
Adam.
Noé. Donc le plus ancien, c'est Noé. Oh, non, ensuite, le deuxième.
C'est au one point.
Le deuxième.
Ibrahim.
Voilà, bravo, un point pour Nadia. Le troisième.
Nadia, one point.
Le troisième.
Moi, j'avais dit, mais bon.
Moïse.
Moïse, bravo, dit Youssef, Moussa, bravo. Un point pour toi, Philippe. Moussa, alayhi salam. Et le quatrième.
Aïssa.
Voilà, et le dernier.
Ah, Nadia fait la différence.
Nadia
a trois points, quand même.
Salam, salam, anbiya Allah, du'at as-salam, li'ibadillah. حاز إبراهيم نعمة الإيمان وموسى الكليم كلم الديان وعيسى العظيم من روح الرحمن وطه الحبيب يا حبيب الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. C'est une chanson sur les prophètes, en hommage à ces
merci
prophètes.
Merci Abdel pour votre question. Bonne merci. Soirée, bon Ramadan.
Je suis motivé. En plus, aujourd'hui,
ouais, quelle journée.
Je suis sollicité. Hein.
Allez, dans un instant, un récitateur pour le Coran, Nourdine Aoussad, sera avec nous. Et c'est la sourate La Fumée.
Ouais, sourate Dukhan qui nous parle justement au début de la nuit du destin, ou de la nuit de la prédestinée. Voilà, c'est ça.
Ramadan Enko revient dans un. FM, 19h-21h, Ramadan & Co, avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Alors là, on va vivre un grand moment, puisque notre récitateur s'est perdu, donc il s'est installé dans un endroit, mais pour réciter, comme il est dehors, pour réciter le Coran, j'ai peur qu'il y ait des mondes qui arrivent.
Qui se fassent embarquer.
J'ai peur qu'il se fasse embarquer.
Voilà, si jamais la police vient, vous dites que vous êtes en direct à la radio.
Voilà. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire.
Voilà.
Alors, c'est Nourdine Aoussad qui est avec nous. Bonsoir, Nourdine.
Bonsoir.
Bon. Salamu alaykoum, ya Cheikh Anna al-Fadl. Kayfa haluk?
Wa alaykoum, salam wa rahmatullah.
Al-Ma'adira qu'on n'a pas su.
Je suis bien installé là. La verdure.
Franchement, sincèrement désolé.
Mais alors, vous êtes au milieu du bois de Vincennes. Mais.
Non, je suis à la périphérie, là oui. Où il n'y a pas de mal, il n'y a pas de méchant, ni de...
Voilà, il s'est mis à un endroit...
Il est porte de Charenton, précisément.
Vous êtes voilà. Porte de Charenton.
Alhamdulillah, vous êtes à l'entrée du bois, porte de Charenton.
Mais il est tout près.
Oui, mais, ouais. Mais tout le moins.
Voilà.
Bon.
Ouais, ben, Inch'Allah, pourquoi pas, si, dès qu'on termine, il vient nous rejoindre ici, s'il veut. Il est bienvenu, Cheikh.
Je pense que moi, après.
Mais en tout cas, tu es la bienvenue, Cheikh. Merci
beaucoup. Très gentil.
Donc, Cheikh Nourdine Aoussad, qu'est-ce qu'on peut dire sur toi? Alors, tu es imam aujourd'hui depuis combien d'années, Cheikh?
L'imamah, ça fait une quarantaine d'années, 36 en France.
Masha'Allah. Donc, tu es un des vétérans, un des anciens, un des pionniers de l'islam de France, en fin de compte.
Tout à fait. En fait, l'imamah, en bilingue, je pense avoir été l'un des premiers. Moi, depuis 86-87, je prêche en français dans la mosquée pour le vendredi.
Et c'était quelle mosquée, la toute première?
La mosquée d'Aix-en-Provence, centre-ville, une ville estudiantine, donc il y avait pas mal d'étrangers. Et le prêche en français s'imposait en quelque sorte.
Et aujourd'hui, vous êtes dans quel...
Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un frein à la mosquée de frein. Ah,
Allahumma barak.
Et la semaine prochaine, je serai à Massy.
Massy, la grande mosquée de Massy, mashallah.
La grande mosquée de Massy.
Ouais. Allahumma barik, Allahumma barik. الله يحفظك يا شيخنا نسمعك ان شاء الله تفضل مشكورا في تلاوه الايات سوره الدخان دونك il va nous réciter le début de la sourate la fumée où Dieu parle de la prédestinée qui est dispatchée qui est partagée voilà بسم الله تفضل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله عليك يا شيخنا على هذه التلاوة العطرة من بداية سورة الدخان سورة لا فومي et puis tu as enchaîné pour nous réciter bien entendu la sourate complète qui parle donc de la prédestinée qui s'appelle la sourate la prédestinée. D'abord, est-ce que c'est la bonne traduction quand on dit Laylatul Qadr? Et bon, je te laisse développer et puis je t'interromps pas Cheikhna. Bismillah,
alors, justement, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux sourates et vos auditeurs comprennent bien, c'est pour faire allusion à ce que nous allons commencer à partir du dimanche au soir au coucher du soleil, les 10 derniers jours de ce mois de Ramadan, les jours bénis, certainement les jours les plus bénis de toute l'année et même, je dirais, de toute la vie d'une personne. En fait, le lien entre ces deux sourates, que j'ai récité, c'est que les versets de sourate la fumée parlent de la descente du Coran en une nuit bénie, et la sourate al-Qadr, c'est pas la prédestinée, mais la sourate la nuit grandiose, ou bien la grandiose, la sublimité, la grande valeur. C'est ça les bonnes traductions. Ces trois traductions sont des traductions correctes de l'Qadr. Parce que souvent, on le trouve dans des traductions traditionnelles, on parle de la prédestinée, de la nuit des destins. Ce n'est pas trop très correct, ça ne rend pas le sens de cette sourate. Parce que la sourate, elle parle de l'Qadr avec un stukul sur le Del, et non pas l'Qadr avec un fetha sur le Del.
Puisque la fête signifie fait, le destin ou la prédestinée, alors que le Qadr, c'est la quantité.
Le Qadr, c'est le mérite. Surtout la valeur.
La valeur, le mérite.
Le Qadr, c'est la valeur, la sublimité. C'est-à-dire là, quelque chose qui a une grande valeur, quelque chose qui est grandiose. Et c'est de ça dont il s'agit dans cette sourate. Puisqu'Allah, à trois reprises, il dit nous l'avons certes fait descendre en la nuit grandiose. Et qui te fait savoir ce qu'est la nuit grandiose? La nuit grandiose est meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois. Vous vous rendez compte? Ça paraît même, je dirais, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour cette raison qu'Allah, certainement, a dû répéter 3 fois le mot Al-Qadr dans cette sourate, cette courte sourate. Il répète 3 fois le mot pour qu'on s'accroche. Pour saisir le sens de cette sourate, on doit faire un effort de comprendre ce que Allah veut nous transmettre comme message. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on, dans le deuxième verset, il attire notre attention. Il nous dit, وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Sais-tu vraiment, es-tu au courant, quelqu'un t'a mis au courant de ce qu'est la nuit grandiose? Certainement, personne ne peut nous mettre au courant de cette nuit grandiose avec des termes aussi simples, mais surtout aussi vrais, c'est la parole d'Allah, et pour qu'il nous prépare, pour que nous, dans le troisième verset, il va nous annoncer ce qu'est cette nuit grandiose. En fait, c'est une nuit qui vaut 1000 mois. 1000 mois dans notre calendrier à nous, ça veut dire 83 années. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est la grâce d'Allah. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. Ça, c'est le don infini et immensément grand d'Allah. Allah, quand il donne sans retenue. Et là, il nous le montre en nous donnant une opportunité, une occasion unique de vivre une seule nuit parmi les 10 nuits de la dernière décade. Et Allah, en réponse à cela, et en récompense à ce petit effort, il va nous donner la récompense de comme si ce que nous aurons fait cette nuit-là, nous l'avons fait pendant 83 années.
Ou plus, ce qui est meilleur que 1000 ans. Mais en même temps, je ne sais pas si le son est.
Si vous voulez, Imam Abdelali, on va s'arrêter un instant.
Une petite pause. D'accord.
Voilà, et on va revenir dans un instant, si vous voulez bien, comme ça, on pourra terminer.
Reste avec nous, cher.
Ramadan Enko revient dans un instant.
FM, 19h, 21h, Ramadan Enko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, Nourdine Aoussat est avec nous et nous sommes au cœur de la sourate Ad-Durkan ce soir, imam
Abdelali. Ad-Durkan. Et je crois que c'est même sans.
Ad-Durkan, lui, c'est le
magasin.
C'est le magasin. Alors, on peut être au cœur de la boutique aussi, mais c'est pas le nom de la sourate.
Et en plus, je crois pas qu'il y a de shedda sur le kha. C'est Ad-Durkan. Ou allez, c'est Ad-Durkan. Hein, souvent, il y en a qui mettent un shedda sur le kha. Oui, ma fille a shedda. Il n'y a pas shedda.
Non, il n'y a pas de shedda, non.
La question, Cheikh Nourdine, que je voulais te poser, excuse-nous pour cette coupure technique qui a eu lieu là, c'était parce qu'on avait donc un petit souci, Inch'Allah, et ça s'est réglé.
C'est pour la publicité.
Non, voilà. Donc, Khair, Inch'Allah. La question que se pose, c'est tu dis que cette nuit-là, et tu le dis, mais parce que c'est le Coran qui le dit, bien sûr, qui est meilleure que 1000 mois, donc mieux que 83 années, 4. C'est bien ça?
Bon.
Que celui qui accomplit des bonnes œuvres pendant cette période-là, pendant cette nuit-là, aura la récompense comme si qu'il avait fait pendant 1000 mois ou plus, ou mieux que 1000 mois. Mais celui qui fait pendant cette nuit-là des mauvaises actions, est-ce qu'elles lui seront aussi comptées comme les mauvaises actions de 1000 mois?
Non, Allah Ta'ala, par sa miséricorde, ne peut pas faire ça. D'une manière générale, à part des endroits Et c'est ça, on parle de la bénédiction. La bénédiction, elle multiplie et elle décuple la récompense. Mais elle ne décuple pas, je dirais, la punition.
Ou le
Celui
péché.
Qui fait du mal cette nuit-là aura fait du mal. Mais quel plus mal, je me permets de dire à Cheikh Abdali, quel mal pire que celui de perdre toute cette récompense.
De gâcher le moment.
C'est pour cette raison que le prophète Prophète dit « Wa la yuhramu khayruha illa mahroum » n'est privé de son bien que celui qui est vraiment privé. Allah n'a pas besoin de démultiplier la punition de celui qui fait du mal durant cette nuit, et ça lui suffit justement à cette personne qu'il aura perdu une récompense immense.
Et puis Dieu ne dit pas Laylatul Qadri sharrun min alfi shahr. Il dit khayrun faqat, il dit que khayrun. Donc ça ne parle que des nobles actions, nobles œuvres, et non pas Absolument. Sur celles qui auraient pu être mauvaises. Donc, alhamdoulilah, Absolument. Dans sa grande miséricorde, c'est la récompense simplement des bonnes actions qui sont décuplées pour une valeur supérieure à 1000 mois. Et puis Dieu après, vers la fin du Coran, il dit salamun. Salamun. Oui. Qu'est-ce que c'est
ce salam? C'est une nuit de paix. C'est une nuit de salut et de paix. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Il est dit par les savants, hein, les exégètes, que cette nuit-là, elle est particulière dans le sens où les anges, l'archange Gabriel, le Rouh, l'esprit, descend cette nuit-là, et les anges descendent avec lui. Il est dit que le nombre des anges sur terre cette nuit-là est équivalent, voire plus que le nombre d'étoiles dans le ciel, quand vraiment le ciel est bien étoilé. Ils sont très très nombreux, et sa paix, elle se poursuit jusqu'à l'aube. Et Allah pouvait bien dire ila al-fajr, salamun ila matla' al-fajr. Et le sens est exact. Mais les linguistes, ils disent que hatta a quelque chose de meilleur que ila, parce que elle signifie la poursuite et la continuité. C'est-à-dire depuis le coucher du soleil de la nuit de Qadr jusqu'à l'aube, toute la nuit, les anges ne cessent de descendre, et toute la nuit, elle est une nuit sublime. Elle est une nuit grandiose. Et je vais rajouter encore une chose. On dit à propos de cette nuit, c'est le hadith, hein, le prophète Sassoumi dit que si elle est en hiver, cette nuit-là, elle est moins froide que les autres nuits, celles d'avant et celles d'après. Et si on est en été, la nuit, elle est moins chaude que les nuits précédentes et les nuits suivantes. Samha, et il dit le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, à savoir qu'elle est douce. En hiver, elle est moins froide. Et en été, elle est moins chaude.
Le prophète, justement, décrit le shuruq, c'est-à-dire le lever du soleil le matin.
Du lendemain,
comme étant un lever de soleil sans rayon. C'est-à-dire, bayda'a la shu'a alaha. Pourquoi? Quel est le côté, comment
Écoute,
ça se fait?
Peut-être ça, par exemple, moi, personnellement, j'aurais aimé que les centres d'astronomie dans les pays musulmans puissent contrôler cela, vérifier cela pour nous donner une preuve, disons, factuelle. Ça d'une. Et de deux, tellement la nuit, elle est illuminée, la nuit, elle est sublime, que peut-être elle va cacher, je dirais, la clarté et l'éclat du soleil. Même l'éclat du soleil, en quelque sorte, abdique, si je puis dire, devant la clarté, la sublimité et la grandiosité de cette nuit.
Wallahu a'lam. Oui, aussi peut-être parce que la présence de ces milliards d'anges qui descendent sur Terre et qui sont des créatures de lumière, eux aussi illuminent le ciel et donc estompent et baissent la clarté ou la on va dire la et c'est eux qui finalement sont à l'origine de cette.
Je partage tout à fait parce que ce sera le moment où ils seront en train de remonter au ciel en même temps que le soleil se lève, que l'éclat de l'aube commence à poindre à l'horizon. Et c'est le moment où la nuit finit et les anges sont en train de monter et en remontant avec leur lumière certainement il cache aussi l'éclat du soleil et de ses rayons.
Pour que les auditrices, auditeurs comprennent, si vous allumez une bougie en plein jour, est-ce qu'elle a un éclat? Elle n'a pas d'éclat, la bougie.
Elle n'a pas d'éclat.
S'il fait sombre, la bougie va être rayonnante, elle va émettre des éclats. Eh bien, le soleil, c'est la même chose. Comme il se retrouve dans une situation où il est lui-même assujetti à une lumière qui vient d'ailleurs que de lui-même, son éclat est bien entendu diminué par la lumière et par de tous ces millions, des milliards d'anges qui ne descendent, dit Dieu, que par la permission de Dieu, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, finalement, cher. Absolument. C'est bien ça.
Absolument, absolument. Donc, Allah les honore, en fait, en quelque sorte, de les autoriser, de leur permettre cette nuit-là de descendre sur terre.
Masha'Allah, masha'Allah. Et bien sûr, Dieu exclut Ruh al-Qudus, qui lui n'a pas besoin de permission. Tanazzal al-Malaikatu wa ar-Ruhu fiha. Pourtant, Ruh wa Malak. Sayyidina Jibril est un ange comme les autres, et pourtant Dieu va le dissocier des autres anges. Parce que d'après ce que je comprends, lui n'a pas besoin de permission, parce qu'il déjà il descend pour voir le prophète
à chaque fois qu'il descend aussi avec la permission de Dieu. Ouais. Sauf que là, l'archange Gabriel n'est pas n'importe quel ange. Il faut qu'Allah Ta'ala l'honore en lui donnant un rang distingué en disant les anges et l'esprit saint. Donc, en l'évoquant lui tout seul, c'est pour l'honorer qu'il est différent des autres anges. Mmh. Il a un rang supérieur.
C'est un archange, donc un Sayyidul Malaïka.
Non, Sayyidul Malaïka.
Masha'Allah. Alayhi salam. بارك الله فيك شيخنا نور الدين على هذه الكلمات العطرة والتي نورت بها القلوب و voilà je pense que on en a terminé ce soir inchallah avec le plaisir inchallah de t'inviter sur le plateau dans des conditions meilleures que la situation
avec
dans laquelle on est
inchallah
c'est اسمح لي j'avais pas vu tes messages tout à l'heure yatk saha
en tout cas c'est une première puisque c'est la première fois qu'on le fait en direct depuis la rue, donc vous en êtes très très bien tiré, et personne n'est venu vous chercher.
Il a été excellent, il a été magnifique. Shukran, jazakallahu khairan. Wa khalik lina, inshallah, wa khalik dhukran l'islam wa l'muslimin, inshallah. Wa rabbi yatawwal umrak, inshallah, fi ta'ati Allah, wa fi da'wa ila Allah, kama ahidna alayk. Hafidhakallah, shaykh. Ila liqa. Ma'a salam, shaykh. Fi amanillah.
Voilà. Alors, on passe de la porte de...
C'est un imam tout terrain.
Oui, tout terrain, c'est le cas de le dire. On quitte Bab Charenton, on va à Bab El Oued. Là, on va récupérer Kamel Chekat. Bonsoir, Kamel.
Bonsoir, salam alaikum. Je suis à El Bihar, hein,
Bab El Oued. C'est pas très loin.
Oui.
Pas
si loin. Et puis, le rapport entre El Bihar et la partie Kasbah, c'est beaucoup plus Bab Jdid que Bab El Oued. Attention. Donc,
Là,
on entre. Oui.
Mais en tout cas, tu es dans une ville d'Alger qui est jumelée avec notre voisine qui s'appelle Alfortville. Al-Bihar est jumelée avec Alfortville. Quand vous entrez dans la ville d'Alfortville, vous marquez ville jumelée avec Al-Bihar. Depuis plusieurs années. Tout à fait.
C'est Carbounas qui a fait ça.
Je vais te montrer sur Internet, tu verras. Carbounas qui a fait ça, tout à fait, c'est Carbounas. Non, je crois même que c'est son prédécesseur, Rouquet. C'est René Rouquet qui a fait ça.
D'accord.
Mais Carbounas est dans l'élan de son mentor. Tout à fait. Voilà.
Bien, Kamel, on vous écoute.
C'est là où j'habite en plus.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre effort de réflexion qui a abouti à une décision qui était plus que capitale surtout dans l'histoire de l'expansion de l'islam. Alors, je commence par lire le verset 41 de Sourate Al-Anfal, là où il est dit « Et sachez que de tout butin que vous aurez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, Wallahu ala kulli shay'in qadir, et Allah est omnipotent. » Alors, en vertu de ce verset, qui accorde le cinquième du butin à ceux qui participent aux campagnes de guerre, aux conquérants. Quand l'Irak a été... Nous nous disons en langue arabe « Futihat al-Iraq », littéralement ça veut dire « ouverte ». Et c'est un terme qui va prendre tout son sens avec ce qui a été, surtout avec ce qui a été fait par Omar ibn Khattab. Donc quand l'Irak a été conquis, Saad ibn Abi Waqqas, qui était le commandant en chef, a envoyé au commandeur des croyants Omar ibn Khattab une missive disant que les gens là-bas le sommaient de commencer à faire les partages essentiellement des terres. Et cette terre était appelée en langue arabe Ardus Sawad, la terre noire. Pourquoi ? Parce que ces conquérants venus de la péninsule arabique avaient l'habitude des étendues jaunes à cause du désert, mais ils n'avaient pas l'habitude de voir des terres verdoyantes et luxuriantes comme celles de l'Irak. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Ardus Sawad. Donc quand il a demandé cela à Omar ibn Khattab, il a dit je ne veux pas faire ce partage parce que si je venais à le faire, il ne resterait rien pour personne. Ces mêmes terres seront héritées de génération en génération et ceux qui viendront après ne trouveront absolument rien. Et la communauté de l'époque s'est divisée en deux. Il y avait un groupe qui voulait absolument qu'il y ait ce partage. Il y avait Abdurrahman ibn Auf, Bilal ibn Rabah, Zubayr ibn al-Awwam. Ils ont tout simplement dit à Omar ibn Khattab, parce qu'ils étaient à Médine dans une sorte de... Il a réuni tout le monde en réunion, on va dire, en sommet extraordinaire. Ils ont dit, comment peux-tu arrêter, stopper un décret édicté par Dieu et faire profiter justement de ce butin des gens qui n'ont pas participé à ces campagnes de guerre. Et d'un autre côté, il y avait des gens qui étaient pour la décision de Omar ibn Khattab, qui ne voulaient pas qu'il y ait ce partage parce que c'était tout simplement du gâchis. Ça ne cadrait pas avec ce que nous appelons maqasid sharia, les visées, les objectifs ou les vocations majeures de la loi coranique. Parmi ceux qui étaient contre ce partage, il y avait donc Omar ibn Khattab, bien entendu, il y avait Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, donc les trois califes, il y avait Talha ibn Zubayr, Mu'ad ibn Jabal ibn Omar, et donc c'était beaucoup plus l'élite là des savants, de l'élite savante des compagnons qui étaient contre le fait de faire cela. Et il y a eu donc une discussion entre ce beau monde et Omar ibn Khattab, aidé par certains, et a relié ce verset, qui est le verset 41 de Sourate Al-Anfal, qui accorde le cinquième du butin. Quand on parle du butin, on parle même des terres conquises aux conquérants, à l'armée qui a opéré justement cette conquête. Et il leur a rappelé le verset 7 de Sourate Al-Hashr, qui parle non pas de butin, mais de tribut de guerre, parce qu'il y a le butin qu'on prend après une bataille, et il y a un tribut qui est pris sans combat. Et donc, on appelle cela le Sayy, ma asa Allahu ala rasulihi min ahli al-Qura, donc le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager, appartient à Allah, au messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Donc, ce verset insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait, justement, de l'argent qui est thésaurisé ou des biens qui circulent uniquement entre une sphère bien déterminée, de sorte à ce que cette sphère forme un lobby. Et donc, après ce verset 7, le verset 8 dit que ce butin même, il appartient aussi aux émigrés besogneux, les muhajirin, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aimaient, etc. Et puis le verset 10, qui est le plus important, dit « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا » Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs une rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Et là, on n'est pas donc à lier tout cela avec ce verset 10 qui concerne les générations futures, qui concernait déjà sous son califat les générations futures. Et il s'est adressé à la communauté disant « قَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ فِي هَذَا الْفَيْءِ » Dieu a associé ceux qui viendront après vous à ce butin. Si je venais à le partager, il ne resterait absolument rien à ceux qui viendront après vous. Mais si je le laisse tel quel, une part ou quelque chose de ce butin arriverait forcément ou ferait un bien forcément à tout le monde, même au petit berger qui est à Sana'a. Et garderait pour tout le monde sa dignité. Et donc, c'est à partir de là que ce verset a été carrément, il y a eu un moratoire à partir du règne de Omar ibn Khattab sur ce verset. Et à chaque fois que les musulmans entraient dans une contrée, à chaque fois qu'ils ouvraient un espace, un territoire, ce territoire appartenait à tout le monde, autant aux musulmans qu'aux non-musulmans. Et là, il y a un témoignage de Bernard Lewis, le mentor de Samuel Huntington, qui dit dans Legacy of Islam, à la fin du règne des Ottomans en Europe, les nations gouvernées par ces derniers, pendant des siècles, existaient encore avec leur langue, culture et religion. Et même jusqu'à un certain stade avec leurs institutions. Tout est resté intact, apte à assurer la continuité nationale de ces nations. Là, nous parlons de la Hongrie, d'une partie de l'Autriche, de pas mal de contrées. Et il dit ensuite, en faisant le parallèle, tandis qu'en Espagne et en Sicile, il n'y a aujourd'hui plus de musulmans ou d'arabophones. Donc, Omar ibn al-Khattab a agi selon une logique qui est celle du Coran, et il a très très bien fait dans la mesure où il a donné justement à l'expansion musulmane ce terme de futuhat, ouverture au pluriel, qui caractérise assez bien justement ce qui a été fait par les musulmans à cette époque. Voilà donc pour aujourd'hui et merci pour votre attention.
Et merci d'avoir été avec nous, Kamel Chekat, qu'on retrouve tous les soirs du mois de Ramadan et qui nous ouvre les portes de l'effort de réflexion de l'Ijtihad. Merci Kamel, à demain.
À demain, inshallah. Salam
alaykoum. Bon, Imam Adelali, je sais qu'on a beaucoup abusé de vous aujourd'hui, mais tout à l'heure, vous allez faire un doa à l'un de nos auditeurs.
Avec plaisir. C'est jamais de trop de faire un doa.
Voilà.
Donc, on a toujours besoin des doas. Personne ne peut se passer des doas.
Bien. Alors, si vous voulez être avec nous dans un instant, il suffit de nous appeler au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co. revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, je vous rappelle que si vous voulez que l'imam Abdelali Mamoun vous fasse un doigt en direct, eh bien c'est 01 53 48 3000 que vous composez, 01 53 48 3000 que nous avons ce soir avec nous sur ce plateau, le professeur Warsito. Bonsoir professeur.
Bonsoir Philippe.
Et bienvenue, vous êtes attaché de l'éducation et la culture à l'ambassade d'Indonésie en France.
Oui.
Voilà, et on salue votre épouse également, Ibu Warsito, qui est avec nous ce soir. Très honoré de vous avoir avec nous. Vous allez nous expliquer un petit peu les traditions du mois de Ramadan en Indonésie. Est-ce que c'est très différent que ce qui se passe en France, professeur Warsito?
Oui, il y a différent, bien sûr, parce qu'en fait, nous, notre pays est vraiment riche de culture. Surtout, il y a la culture avant de Ramadan, on a plusieurs différents comment traditions. Ça dépend de région. Et par exemple, je vous informe, par exemple, il y a une tradition qu'on appelle Nyatran. Voilà. En fait, Nyatran, c'est de faire en fait, le but, c'était notre vraiment ancien grand-parent. Le but, c'est de rappeler, de se rappeler notre famille qui ont déjà décédé. Et pourquoi? C'est pourquoi les familles qui ont encore vie viennent à tombe pour faire comment pro et puis faire du an. Et puis également à la maison, ils font de comment sadaqa pour aux voisins, aux familles, c'est ça en fait, c'est la tradition. Qui lorsque
ça,
les...
ça c'est avant le Ramadan, professeur.
Avant Ramadan, voilà, bien sûr. Avant Ramadan, c'est une semaine ou bien deux jours, trois jours avant Ramadan. C'est à Java, surtout c'est à Java, ça qu'on appelle Nyatran, voilà.
Voilà, l'île de Java qui est la plus grande île, enfin en termes de population.
Voilà, c'est ça, oui.
D'Indonésie.
À peu près 40% d'habitants d'Indonésie vivent à Java, l'île Java, voilà.
Le total de la population indonésienne aujourd'hui, professeur Warsito, c'est combien?
270 millions.
D'accord. Et voilà. Sur ces 270 millions, combien de musulmans?
Musulmans, c'est à peu près 87%. C'est-à-dire, c'est 220 millions.
Oui, ce qui fait de l'Indonésie aujourd'hui, en termes de population, le pays qui comporte le plus de musulmans aujourd'hui dans le monde. Hein.
Oui.
Mais les autres religions sont présentes
Indonésie. Bien sûr. Parce que nous, notre gouvernement a 5 piliers. Le premier pilier, c'est chaque peuple indonésien doit avoir le croyant en Dieu unique. C'est obligé, quelle que soit religion. Nous, on a, en Indonésie, il y a 6 religions. L'islam, et puis chrétien, catholique, hindou, bouddhiste et Konghucu. C'est la religion chinoise. Voilà, c'est officiel. D'accord. Officiel par gouvernement.
Comment on appelle ces 5 piliers de la constitution indonésienne?
C'est un nom, ça? Oui, Pancasila. Voilà, 5 piliers.
Nadia, maintenant, vous savez ce que c'est.
Pancasila. Oui, c'est ça.
À ne pas confondre avec le sport qui est le... Oui.
Quoi? Pancasila.
Voilà.
Ah, on le sait. Oui, c'est ça. C'est pas l'indonésien, ça.
Alors, d'autres traditions qui sont propres au Ramadan, ce qu'on appelle le Padusan.
Oh oui. Padusan, en fait, c'est vient du mot Java. Quand on l'appelle, c'est adus. Le mot exact, c'est adus. C'est-à-dire, c'est se baigner. Voilà, c'est bien. Mais en fait, le but, c'était pour faire, comment se purifier notre physiquement et également notre cœur. En fait, le but de l'histoire de cette culture. C'est en fait dans l'islam qu'on l'appelle, ablution.
C'est les ablutions, voilà. Ouais.
Grand ablution. Voilà, c'est différent. Ablution, c'est ablution seulement pour préparer la prière, mais grand ablution, c'est lorsqu'on veut, c'est ça, dans notre culture javanaise, c'est avant Ramadan.
Et ça, les gens, ils vont collectivement, en fait.
Oui, collectivement, mais toujours avec barrière. c'est-à-dire, parfois, il y a une source de l'eau, qui c'est-à-dire comme un lac qui est comme nous, comme ça, les habitants de les Javanaises viennent là-bas et puis se purifient.
Alors, le mois de Ramadan est le mois où on se demande pardon, ça s'appelle Minta Mahaf.
Ah oui, Minta Mahaf, c'est ça notre culture, c'est toujours. Et maintenant, ça devient un mode de vie, en fait. Il y a plusieurs propositions de programmes, par exemple, online, en ligne. Maintenant, c'est pour Minta Mahaf, c'est se pardonner, en fait. Pour qu'il soit, tout à l'heure, comme j'ai dit à Nadia, qu'en fait, c'est commence à zéro, voilà. C'est comme un reset, quoi. Un reset de communication, de relation, voilà.
Et à la fin du Ramadan, il y a une phrase que tout le monde dit.
Voilà, halal bihalal, à la fin. C'est en fait.
Il faut que tu me la dises là. Répète à tout le monde.
Non, excuse-moi, parce qu'en fait c'est le mot arabe, mais ça.
Je suis en CP, moi, je suis pas en CE2.
Halal bihalal, bil halal, halal avec halal. C'est-à-dire, en fait, on se pardonne. C'est pour qu'il soit entre nous, il n'y a rien.
Halal bil halal.
Halal bil halal. C'est commence à zéro. Nous, on n'a pas de
pas de rancœur.
Pas de voilà. C'est tout est propre. C'est ça, c'est vraiment tradition, c'est indonésien. C'est vraiment indonésien.
Le mot halal, ça veut dire l'État.
Oui.
L'État. Halati, c'est mon État. Halal, c'est donc licite, il est, on va dire, nettoyé.
Licite, voilà. C'est ça.
Purifié.
Mais ça veut dire qu'au moment de l'Aïd, tout le monde se dit, je te demande pardon, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est avec Covid, c'est pas... Mais normalement, c'est vraiment une grande fête. C'est vraiment le jour de l'Aïd de Fitr, c'est vraiment une grande fête. Et en chaque maison, c'est, d'ailleurs peut-être c'est comme dans d'autres pays musulmans, il y a la nourriture typique de l'Indonésie. Chaque famille prépare et puis les gens vraiment se rendent visite quoi aux voisins pour se pardonner. Voilà.
Bon, qu'est-ce qu'on mange le jour de l'Aïd El Fitr?
Oui.
Idul Raya Fitr.
Voilà. Nous, on a un spécial bonbon. C'est-à-dire, c'est ça dépend de région. Surtout que ce que je connais bien, c'est à Java. Il y a un bonbon qui est fait de farine avec sucre. Mais on prépare ça, c'est pas seulement deux heures. Hein. C'est vraiment une nuit. On prépare ça, c'est comme un bonbon. Mais ça reste longtemps. C'est-à-dire, ça va pas. Il n'y a pas expiré, c'est longtemps, quoi. C'est peut-être pendant.
La date d'expiration est très longue, très lointaine.
Ça dure, quoi. C'est soit 3 semaines même. C'est ça le.
Ça dépend combien les mangent. C'est-à-dire que si vous avez l'imam Abdelali en Indonésie, par exemple, il n'y aura pas de durée de 3 semaines.
Ils n'ont pas le temps d'expirer.
Allah, allez, on verra.
Avec plaisir.
Moi,
imam.
J'attends d'être invité. Hein.
Oui, avec plaisir.
Là, on verra. Qui vivra, verra.
L'imam Abdelali ne mange.
Qui partira en Indonésie, constatera.
En l'occurrence, c'est qui vivra, goûtera. Ouais.
Et jouira des plaisirs de l'Indonésie.
Et ça, avec différents goûts. Avec différents goûts, c'est-à-dire avec goût de fruits, différents fruits. D'origine d'Indonésie. Mm-hmm. C'est vraiment.
Et loin la bouche là.
Oui, ça m'a fait aussi d'envie de rentrer en Indonésie là. Votre question vient.
Là. On a tous la nostalgie. Ouais.
Ce soir, on a un mélange de couscous et de ftour indonésien.
Voilà.
C'est le Rabboul Mashriqi ou Rabboul Maghribi.
Ouais, c'est ça.
Inch'Allah. Ouais. J'ai bien résumé.
Oui, c'est ça. Bien. Bon. Ben oui, on va goûter à la
cuisine. Oui, avec plaisir.
Du Mashrek et du Maghreb. C'est ce que dit, ce que disait le verset. Le Seigneur du Mashrek et du Maghreb, Dieu.
Bon, alors, le professeur Warsito est avec nous. Oui. On fera le doigt après la pub, Imam Abdelali, comme on aura
Inch'Allah,
plus de temps.
Avec plaisir.
Donc voilà, on vous attend au standard au 01 53 48 3000.
Et là, c'est pas le Seigneur du Mashrek.
Ramadan & Co revient dans un instant. Excellent mois de Ramadan. Beurre FM. 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, c'est vraiment Enco ce soir, Imam Abdelali, puisqu'autour de nous, nous avons Nadia El Bouga qui est là, et le professeur Warsito de l'ambassade d'Indonésie à Paris qui est là et qui va nous donner un numéro entre 1 et 6, professeur.
C'est quoi ça?
Il faut donner un.
Donne un chiffre.
C'est pas votre numéro de carte bleue. C'est...
Vous dites 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
3.
3, voilà. 3.
Voilà.
Bravo.
Voilà, c'est le numéro 3. Bonsoir, bienvenue.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, comment ça va?
Ça va.
Lebes, comment tu t'appelles toi?
Yasmine,
mashallah. Allah yhafdak. Tu as quel âge, Yasmine?
J'ai 9 ans.
Mashallah, tu as l'âge de mon fils, tu vois. Inch'Allah. Tu voulais un petit doua pour les papas ou mamans ou c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu voulais?
C'est pour la mère de ma mère et le père de ma mère qui sont morts.
Donc ses parents, les parents de ta maman qui sont décédés, c'est ça?
Et du papa.
D'accord. Eh bien, Inch'Allah, on va faire le doua, Inch'Allah, d'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa afdalu salati wa atamu taslimi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة رياض الجنة اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم إن موتانا في ذمتك وحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم كذلك أخونا محمد طاهر ses enfants vont le reconnaître quand je parle de محمد طاهر كالله عز وجل les comble tous إن شاء الله de sa miséricorde اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولا تضللنا بعدهم اللهم اجعل عن يمينهم نورا وعن شمائلهم نورا ومن أمامهم نورا ومن فوقهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين في نور من نور على نور ربي لا تجعل
لا تجعل فجرا في رمضان يمر إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وذنوب موتانا يا رب العالمين، ورحمتهم ورحمتنا وجعلت مثواهم الجنة يا رب العالمين، وجعلتنا أحياء وأمواتا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وكذلك الأخت فاطمة، notre sœur Fatima qui est malade et beaucoup de membres de sa famille ont attrapé le corona malheureusement. Et je fais cette dua inshallah pour tous ceux qui sont en France ou ailleurs qui nous écoutent et qui sont atteints de maladies, notamment le waba. Qu'Allah Azza wa Jal leur accorde un prompt rétablissement, inshallah. Qu'Allah leur accorde la santé, le rétablissement, la forme. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil bas ashfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. اللهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم يا رب العالمين كل المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغارب. Allez, on va aller plus large. Pourquoi المسلمين فقط؟ الله يشفي كاع الناس، كل شيء، المسلمين ولا غير المسلمين. الله يرد لهم صحتهم وعافيتهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. كل مريض في الدنيا يعاني من مرضه، اللهم فشفه واجعل مرضه سببا لطهور ذنوبه يا رب العالمين. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. ربي إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيدهم، اللهم احرسهم بعينيك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيهم يا رب يا أرحم الراحمين. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين.
Voilà, Yasmine.
Qu'Allah te protège aussi ma fille. Qu'Allah يجعلها صالحة من الصالحات. Allahumma ihfazha bihifdhik ya rabbal alamin. Hadi Yasmine, qu'Allah la protège elle et tous nos enfants inchallah, qu'il les protège, tous nos proches, qu'Allah les comble de sa protection, il les couvre de sa protection inchallah, et qu'il les préserve de tous les démons, qu'ils soient humains ou qu'ils soient des jnoun. Qu'Allah azza wa jal nous épargne de leurs méfaits et qu'il nous couvre de son bonheur et de sa sérénité inchallah tabaraka wa taala.
Inchallah.
Allahumma ارزقكم ان شاء الله برها، اللهم ارزقكم برها يا رب العالمين.
امين
امين يا رب العالمين. تعالى tu fais attention à tes parents, tu leur fais des gros bisous, hein, d'accord؟
oui.
ما شاء الله عليك. الله يحفظك protège ma fille. صح فطورك ما شيري، برافو عليك. الله يحفظك. Bon. T'as bien joué l'ambassadeur de la famille de la maison là.
Ouais, complètement là. Imam Abdelali, qu'est-ce que vous avez rapporté de votre discothèque aujourd'hui?
Alors une belle chanson d'un Marocain qui a une voix sublime. Assez particulière. Déjà, c'est un album qui date déjà, mais que beaucoup n'entendent pas beaucoup. Il s'appelle Abdessalam al-Hassani, qui est lui-même descendant du prophète Mohammed. Il s'appelle Hassani parce qu'il est descendant de Sidna al-Hassan, fils de Fatima, fils de Mohammed alayhi salatu wasalam. Il a des chants magnifiques en éloge à notre prophète bien-aimé Mohammed salallahu alayhi wasalam. Et quand tu parles du Ramadan, il parle du Ramadan comme étant une brise de fraîcheur et de spiritualité. On l'entend. Nassim habbat alayna.
من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا
الله
صلاح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله 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 نعم الحسب حاسبي كفى إذا بدات عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا بهديه اختفى أمن علينا برفقات عبدك المصطفى أسلك بنا نهش من لهديه اختفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا الله
avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, je rappelle qu'un auditeur VIP sera avec nous pour terminer la journée. Vous attendrez tout à l'heure le top qui vous sera donné par Kim. Et la Dance, c'est à 21h07 hein, si vous habitez Paris et la région parisienne, l'imam Abdelali.
Alors moi, je voudrais connaître d'abord, au niveau de la géographie de l'Indonésie, professeur Warsitu, combien vous avez de fuseaux horaires ? C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisant ? C'est tellement grand, là, l'Indonésie, c'est des îles tellement séparées les unes des autres. Est-ce que vous avez des fuseaux horaires ? Vous avez tous le même...
Ça, c'est très, très bonne question, ça. Mmh. On a trois
fuseaux horaires.
Trois différents, voilà.
D'accord. Et qui sont donc dirigés à chaque fois par trois grandes villes, on va dire capitales de grandes villes.
Non, pas du tout. C'est en fait c'est comme une ligne.
Ah, une ligne.
Une ligne de
ouais, des fuseaux.
Voilà, des fuseaux. Voilà. D'accord. C'est ça.
Et par exemple, on va dire que l'île de Bornéo.
Bornéo, c'est milieu. C'est-à-dire décalage, il y a 6 heures par rapport à la France maintenant.
Ouais.
Mais il y a le plus S. c'est ça sera 7 heures différentes.
C'est ça. Et c'est quoi la grande ville qui est plus à l'est? C'est pas la
c'est
là qui est coupée en deux là.
Papua, voilà.
Papua.
Papua l'ouest, oui.
Et puis celle qui est plus proche?
Plus proche, c'est Jakarta.
Ah là, oui, Jakarta. Ah,
Jakarta. Et puis avec Sumatra, l'île Sumatra.
Sumatra,
d'accord.
Aceh, non, c'est Aceh.
Aceh, Banda Aceh, ouais. Banda Aceh, machallah. D'accord, machallah.
C'est bien, Nadia. Vous avez bien tenu votre compte.
Ça commence.
J'ai révisé.
Kilomètre zéro, kilomètre nol. Il se trouve là-bas, il y a un point qui s'appelle kilomètre zéro.
Machallah.
Tu vas visiter le kilomètre zéro de l'Indonésie.
C'est en fait c'est la limite de le plus comment le plus l'ouest de l'Indonésie.
Extrême ouest.
Voilà. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de répertorier le nombre de mosquées qu'il y a en Indonésie?
Oh là là, ça c'est difficile ça.
Non,
c'est combien de il y a beaucoup
des milliers, je suppose. Oui. Oui, parce que pour accueillir 220 millions de musulmans, c'est combien le chiffre?
Oui, 220, 230 voilà. millions, voilà.
Dans il faut beaucoup de place dans les mosquées. Il faut des
grandes. C'est ça.
Déjà, la mosquée Istiqlal est un monstre de mosquée puisque c'est gigantesque.
C'est la mosquée
Jakarta Istiqlal,
la mosquée la plus grande en Asie.
C'est combien la superficie?
Alors là, malheureusement,
je vais regarder sur Internet. Là. Allez-y voir. Voilà, c'est Jakarta.
Mais
elle est énorme.
Il y a 6 étages.
Chaque étage, c'est un truc.
Oui.
C'est monstrueux.
Alors, on dit que le premier président de l'Indonésie a participé en tout cas, au dessin de cette mosquée. Voilà. Hein,
oui, c'est ça.
Sukarno.
Sukarno, oui.
Voilà. Mais que c'est un grand monsieur, hein, l'architecte de cette mosquée qui est sublime.
Oui,
machallah. Ouais. Et est-ce que, comme dans le monde arabe, vous avez des confréries soufis? Vous voyez, c'est quoi les confréries soufis? En arabe, turq soufia, comme rifa'iya, qadiriya, rifa'iya. Des saints, c'est-à-dire des saints, des aouliyas qui sont considérés comme des maîtres spirituels, dans lesquels ils ont toute une confrérie des disciples qui suit le maître spirituel. Est-ce que ça existe?
Majlis ulama, c'est nous, il y a. Majlis ulama, c'est-à-dire comment le...
Non, mais l'ulama, c'est pour la science.
Oui,
c'est pour
ça.
Le savoir, le sharia, etc.
Oui, c'est ça.
Moi, je parle de spiritualité, c'est-à-dire un maître spirituel pour zikrullah. Pour qui va enseigner
non.
Salat à al-Nabi, dhikrullah, etc. Non? D'accord.
Non,
Mashallah. Allah, Mashallah. Merci beaucoup. En tout cas, professeur, pour ces explications, c'est super intéressant de savoir d'avoir comment est-ce que vous vivez là-bas en Indonésie. Là, j'ai compris.
Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Le Saint-Coran. Et sa traduction en français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit, Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage.
Rabbi, qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. c'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter.
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent.
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers.
وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant.
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte ?
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan sur beurrefm.net. Beurre FM. Le Ramadan, 30 jours avec nous. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co, avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Alors, Imam Dali, vous étiez en train de comparer les mètres carrés des mosquées là,
ouais, c'est impressionnant,
avec la nouvelle mosquée d'Alger. Donc, en fait,
400 000 mètres carrés, la grande mosquée d'Alger, il faut le savoir. C'est énorme, c'est gigantesque. Bon, elle est loin derrière les deux lieux saints de l'islam que sont Mecca et Medina, hein, puisque eux ont une capacité d'accueil de presque, pour Mecca, c'est 2 millions de pèlerins. Medina, c'est un peu plus d'1 million 200, 1 million 300. Pour le Medina, mais qui est elle-même en travaux d'agrandissement, donc qui elle aussi va rejoindre sa grande sœur très bientôt.
Et alors, et le minaret ?
Ben, le minaret, je crois, c'est celui d'Alger, il me semble.
Qui serait le
qui
plus ?
Qui serait à 200 et quelques mètres au-dessus du sol.
Ouais.
C'est une tour, hein, une véritable, parce qu'il y a des étages, et à chaque étage, il y a une bibliothèque, il y a des salles de conférence. Dans le minaret, hein, puisque déjà, le minaret, il est large comme une tour. Donc, ça ressemble plus à une tour qu'à un minaret. Mais c'est officiellement le minaret de la mosquée. Donc, voilà.
Vous y êtes encore jamais allé ?
Non, pas encore.
Non, c'est vrai.
Moi, j'étais en train de regarder ça sur.
Depuis l'inauguration.
Ouais, bon, j'ai pas eu l'occasion.
Alors, on y va. 01 53 48 3000. Je vous rappelle qu'il y a un auditeur VIP qui va terminer la journée avec nous. Et je rappelle que cet auditeur repartira avec un coffret de parfum offert par Maïssa Parfum.
265 mètres, exactement. Le minaret.
D'accord.
C'est bien
j'ai
le plus grand.
J'ai cru que c'était le prix du coffret.
En 265 mètres de haut, le minaret de la mosquée d'Alger.
Voilà. Et le prix du coffret.
C'est énorme. Le coffret, c'est 250 euros, il me semble. On y vient, ça y est, c'est excuse-moi.
Non, mais bien, on est complémentaires, Imam Abdelali. Voilà, on est sur deux longueurs d'onde différentes, mais on est sur deux.
C'est juste un complément d'info.
Bon. Alors, professeur, voir si toi, en numéro 1, entre 1 et 6.
Mais il faut lui dire en indonésien.
Hein?
Il faut lui dire en indonésien. Anka antara satu dan enam.
Oui.
Lima.
Lima.
Un chiffre entre 1 et 6.
Lima.
5, ouais. Moi, je suis parti jusqu'à 6, ouais.
Lima, c'est la capitale du Pérou, ça.
5. Alors, ouais. Qui est sur la ligne numéro 5? Bonsoir.
Bonsoir.
Quel est votre prénom?
Asya Ismaouni.
Asya, c'est ça?
Asya.
Oh, oui. Et ça a marché.
Ah, ça a marché. Bah oui. C'est toi qui as gagné
le coffret.
Alors, tu nous appelles de quelle ville, Asya?
J'ai gagné le coffret.
Écuvilly.
Bien.
Qui c'est?
Alors, il y a maman, là.
Oui, on est trop contents. Ça fait... tous les ans, on essaye.
Ah ben voilà, cette année, vous avez gagné. Quel est votre prénom, vous, maman?
Latifa.
Latifa, bien. Alors, qui c'est qui est autour de vous, Latifa?
Mon papa. Alors, il y a mon mari, Abderrahim, et il y a la copine de Asya qui s'appelle Lou.
Très bien.
Et qui est venue partager le stall avec nous aujourd'hui.
Bon, Latifa, vous pouvez profiter de cette antenne et de cette fin de journée pour passer un message à tous ceux que vous aimez.
Alors, Asya me dit moi. Ben, vas-y, alors, on passe le salam à tout le monde. Oui. Ramadan Moubarak Saïd.
Je voulais passer aussi un salam au Maroc, à Marrakech, parce qu'il y a ma famille. Et je voulais leur dire bon soir et bon Ramadan.
Inch'Allah.
Tous les musulmans du monde, bon Ramadan.
Amen. Bon, Latifa, qu'est-ce que vous avez fait à manger ce soir?
Alors, une
tangia.
Une tangia, du thé et de la sherba.
Avec des briques. La tangia faite par le Marrakech, mon mari, il est originaire de Marrakech.
Bon, bravo. Vous restez en ligne, Latifa, on prend vos coordonnées.